Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Carrefour du Monde, l'émission de l'actualité internationale vue de manière décalée. Dans cette nouvelle édition de Carrefour du Monde, nous reviendrons sur l'emprisonnement d'un journaliste marocain pour délit d'opinion. En France, l'affaire Allègre Baudis n'a pas encore livré tous ses secrets, une affaire qui pourrait bien devenir un scandale politique. La France a aussi connu de nombreuses interpellations de membres de l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, un coup de filet qui a provoqué l'immolation de plusieurs personnes à Paris et dans d'autres capitales européennes. Au Canada, le gouvernement veut autoriser les mariages gays. Par ailleurs, le Québec est en deuil suite à la mort de Pierre Bourgault. Nous reviendrons sur le portrait de cette personnalité entière. Enfin, dans la partie magazine, nous irons nous balader dans les jardins communautaires de Montréal. Ces petits espaces verts urbains sont de plus en plus prisés, à un point tel que la ville de Montréal n'arrive plus à suivre le phénomène. Vous écoutez Carrefour du Monde à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM et sur Radio Panique 105.4 FM, à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 99.9 FM. Carrefour du Monde, c'est aussi à Montréal le dimanche à 9h sur CISM 89.3. N'oubliez pas également qu'il y a un max d'infos et toutes les archives de nos émissions sur le site carrefourdumonde.org. Mais démarrons cette nouvelle édition avec la France où 165 membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien ont été interpellés en banlieue parisienne. Une vingtaine sont toujours entre les mains de la justice française. Un coup de filet totalement inattendu puisque l'organisation de résistance au régime de Téhéran était connue du gouvernement français depuis plus de 20 ans. Le gouvernement Raffarin qui se félicite justement d'avoir fait un pas de plus dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, ce coup de filet a été vécu comme une trahison au sein de l'opposition iranienne. Plusieurs personnes à Paris, mais aussi dans d'autres capitales européennes, se sont immolées en guise de protestation. Explication de Nicolas Perronnet.
Ce sont des images choquantes, brutales, celles de ces immolations de militants iraniens, trois au total en France, plus une à Berne, une autre à Londres. Images qui inspirent horreur et compassion et qui faussent le début de polémique naissant en France sur ce coup de filet contre l'opposition iranienne. Désespérés ou fanatisés, sûrement un peu des deux, mais ce qui étonne dans cette histoire, c'est la question pourtant primordiale du « pourquoi maintenant ?». Le mouvement des Moudjahidines du peuple, mouvement d'opposants activistes à la dictature islamique iranienne, est implanté en France depuis 20 ans. Ce mouvement est connu du gouvernement français depuis très longtemps, tout récemment encore. Des visas d'entrée avaient été décernés à quelques membres. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a justifié l'opération en accusant l'OMPI, l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, de vouloir installer sa base arrière en France. Pierre de Bousquet, le directeur de la DST, la direction de la sûreté du territoire, a affirmé n'avoir aucun doute sur la nature terroriste de ses opposants iraniens. En 2001, il y a eu 195 attaques et attentats contre l'Iran revendiqués depuis Auvers-sur-Oise, le point névralgique du mouvement situé en banlieue parisienne. En Irak, l'OMPI disposait d'une armée propre de 100 000 hommes. Et selon les services français de renseignement, l'objectif des Moudjahidines était de transférer à terme, dans le Val d'Oise, leur centre opérationnel mondial jusqu'à présent installé à Bagdad. Du côté des proches ou sympathisants des Moudjahidines du peuple iranien, cette arrestation de 22 des 165 interpellés a véritablement choqué. Beaucoup demandent une réelle justification. Le gouvernement français préfère être solidaire avec un État terroriste plutôt qu'avec les victimes réelles de ce terrorisme, s'indignait en fin de semaine le neveu du leader du mouvement, Massoud Radiavi. C'est comme si on arrêtait le général de Gaulle pendant la résistance française, a-t-on également entendu au cœur de la mobilisation qui continue à Auvers-sur-Oise. Autour de la maison des opposants iraniens, les membres du Conseil national de la résistance iranienne se sont joints aux manifestants. Tous jurent être prêts à mourir pour que leur dirigeante suprême, Myriam Radiavi, ne soit pas livrée à Téhéran par Paris. Dans cette affaire, difficile de discerner le degré de résistance réelle et celui de l'endoctrinement. Quelle place doit être donnée aux actes qualifiés de terroristes par Paris? Cette arrestation massive et ses conséquences spectaculaires apparaît comme une nouvelle donne dans l'échiquier de la lutte mondiale contre le terrorisme. Et c'est donc assez discrètement que les États-Unis ont salué ce coup de filet. Rien d'étonnant à cela, Washington a rompu depuis 23 ans toute relation diplomatique avec l'Iran et cultive avec les Moudjahidines du peuple une relation ambiguë. Même si le mouvement est sur la liste noire du gouvernement américain, cela n'empêche pas l'OMPI d'avoir pignon sur rue à Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche. On imagine pourtant mal la France agir sans aucune concertation avec les États-Unis, avec qui le gouvernement essaye de renouer les liens. Plusieurs interprétations sont donc possibles pour essayer de résoudre ce casse-tête diplomatique. Selon les conservateurs les plus durs, la France a cherché à renforcer le régime iranien et ses relations avec Téhéran. Autre hypothèse plus probable, celle d'une opération concertée avec les Américains, selon le schéma classique du bon flic, mauvais flic. Au sommet du G8, d'éviants américains et européens se sont mis d'accord pour amener amené l'Iran à renoncer à l'arme nucléaire. Alors pendant que les Américains attisent les manifestations des opposants étudiants ou facilitent les complots contre le régime de Téhéran, les Européens et en tête de liste la France tentent d'amadouer les autorités iraniennes pour les amener à réprimer les agents d'Al-Qaïda en Iran et à collaborer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. George Bush l'avait annoncé à Evian, le monde doit faire pression sur l'Iran.
Outre le climat social tendu, la France connaît une actualité judiciaire très lourde. Tout d'abord, José Bové est de nouveau en prison. Le syndicaliste agricole a été victime d'une opération commando. 80 gendarmes, un hélicoptère et des chiens policiers ont été déployés pour cette arrestation. Une arrestation qui a provoqué la colère des militants de la Confédération paysanne qui promettent de nombreuses manifestations de protestation. José Bové, je vous le rappelle, avait été condamné par la justice à une peine de 10 mois de prison ferme pour destruction de plants de riz et de maïs transgénique. Une autre affaire qui défraie la chronique en France depuis plusieurs semaines est l'affaire Allègre-Baudis. Patrice Allègre est le tueur en série condamné en février 2002 à la prison en perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre de 5 femmes. Depuis la fin du mois de mai, l'affaire prend une toute autre ampleur puisque Patrice Allègre accuse des policiers, des magistrats et des politiques de la ville de Toulouse d'appartenir à un réseau sadomaso et d'avoir même commandité le meurtre d'un travesti et d'une prostituée. Parmi les accusés se trouve Dominique Baudis, il est l'ex-maire de Toulouse et l'actuel président du Conseil supérieur de l'audiovisuel français, le CSA. Retour sur cette affaire en compagnie de Nicolas Perronnet.
C'est une affaire digne des plus grands romans policiers. Il était une fois Patrice Allègre, un tueur en série condamné en février 2002 à la perpétuité pour les viols de 6 femmes et les meurtres de 5 d'entre elles. Des actes commis dans les milieux de la nuit toulousaine, Allègre nie tout, se réfugie dans un mutisme profond pour n'en sortir que début juin 2003. Il avoue alors deux meurtres, celui d'une prostituée et d'un travesti, alors qu'il avait nié jusque-là tout lien avec le milieu de la prostitution. Première révélation qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, Allègre désigne des commanditaires, des magistrats et une personnalité toulousaine, Dominique Baudis, ex-maire de Toulouse et actuel président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel français. Allègre accuse Baudis d'être impliqué dans le meurtre d'un témoin gênant en 92, Claude Martinez, travesti qui envisageait de faire chanter des personnalités toulousaines qui avaient l'habitude de participer avec lui à des soirées sadomasochistes. Dominique Baudis avait déjà été mis en cause dans cette enquête par deux ex-prostituées, accusation réfutée par le président du CSA qui avait dénoncé une machination des milieux de la pornographie car Baudis avait commencé à museler sérieusement le genre sur les écrans de télévision française. Second épisode, Allègre implique nommément des personnalités, toujours toulousaines, dans une lettre à Canal+, la chaîne cryptée française, est destinée à son animateur fétiche, Carl Zéro, reconnu pour aimer emprunter des chemins hors des sentiers battus. Il confirme le témoignage des deux ex-prostituées, Patricia et Vicky, qui témoignaient sur ces fameuses soirées sadomaso, décrivant les dérapages des notables et magistrats toulousains, cocaïne et jeux pervers à gogo, affirmant s'être tue jusqu'à présent par crainte des représailles sur sa famille. Patrice Allègre revendique une tribune médiatique après avoir constaté, je cite, que de nombreuses personnalités, soi-disant blanc-bleus, se sont exprimées longuement pour clamer leur innocence. Patrice Allègre faisait donc une fois de plus référence à Dominique Baudis qui l'aurait missionné pour assassiner Claude Martinez, le travesti qui voulait le faire chanter. Troisième épisode, Allègre reconnaît un troisième crime, le 1er juin, le meurtre d'une autre prostituée, Lynn Galbardi. L'affaire s'envenime, surtout lorsque le tueur met en cause un policier de la ville de Toulouse qui aurait commandité l'acte, toujours avec le même mobile, éliminer un témoin gênant. Ces déclarations corroborent toujours celles de Fanny et Patricia, les deux ex-prostituées, témoins de ces soirées décadentes aux issues morbides. Elles sont aujourd'hui au cœur de l'affaire. Du côté des personnalités mises en cause par Allègre, toutes nient en bloc, toutes sauf une, Marc Bourraguet, ex-substitut de Toulouse, qui affirme avoir rencontré Allègre pour un apéritif, mais qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Nous sommes lundi 2 juin, les initiatives et les documents s'accumulent. Allègre apparaît de plus en plus comme un pourvoyeur de victimes pour les soirées sadomaso des notabilités toulousaines. Le journal Le Monde publie des extraits de procès-verbaux, d'auditions d'ex-prostituées évoquant des liens avec Dominique Baudis. L'affaire prend de l'ampleur, Baudis demande à être mis en examen pour pouvoir se défendre de la commande du meurtre de Claude Martinez. Jean Wolff, le procureur général du parquet de Toulouse, démissionne. Il vient d'apprendre qu'il est accusé par Allègre d'avoir participé avec les victimes à des séances sadomaso. Il se constitue partie civile pour demander dommages et réparations. Une semaine après, le 11 juin, Fanny se livre complètement. Elle raconte au quotidien Libération ses années de cauchemars, de brutalité, de menaces, de chantage, de viol dans le milieu de la nuit toulousaine. Témoignage qui fait écho à celui de Patricia, l'autre ancienne prostituée, sur les protections dont aurait bénéficié à Toulouse le tueur en série Patrice Allègre. Dans le bureau du juge, face aux enquêteurs, elle aurait reconnu les noms ou les visages d'une dizaine de personnes travaillant au palais de justice, dont trois hauts magistrats. Elle aurait donné également l'identité de plusieurs inspecteurs des mœurs Ripou. Jeudi 19 juin, Lagdar Messaouden, un Algérien de 40 ans, est interpellé à l'aéroport de Nice. Il est accusé par deux ex-prostituées d'avoir été le complice d'Allègre lors d'un ou plusieurs meurtres. Patrice Erefani l'accuse également d'être leur proxénète. Il aurait assisté à l'aigre dans l'organisation de soirées sadomasochistes auxquelles auraient participé policiers, magistrats et politiques toulousains dans la ville rose au début des années 90. L'enquête en cours déterminera les responsabilités de chacun dans cette affaire qui pourrait bien devenir le scandale politique de ce début de siècle en France. À Grenoble, Nicolas Perronnet, Carrefour du Monde.
En Espagne, après avoir ardemment brandi la bannière humanitaire pour justifier l'intervention militaire en Irak, l'Espagne démontre à tout bout de champ son incurie en la matière. L'instrumentalisation systématique du principe de défense des droits fondamentaux, en particulier lorsqu'il s'agit des plus faibles, est devenue criante dans le cas des réfugiés. Et déchaîné contre Cuba, le gouvernement Aznar reste la bouche cousue sur le cas d'Ali Lemrabet, le journaliste marocain emprisonné pour délit d'opinion. À Madrid, on retrouve Emmanuel Stales.
Dénoncer les violations des droits de l'homme et l'oppression du peuple, c'est bien, mais encore faut-il être capable de dénoncer là où ça rapporte, comme le font si bien les États-Unis. L'Espagne a depuis quelques années remarquablement appliqué le principe de la dénonciation à géométrie variable. Dans ce schéma, Cuba fait figure de dictature pestiférée et la monarchie marocaine d'amis loyales et respectables. Les relations hispano-marocaines sont au zénith depuis quelques mois. C'est pourquoi la ministre des Affaires étrangères espagnole réprime tout commentaire sur le cas d'Ali Mrabet, le journaliste condamné pour outrage au roi et dont la grève de la faim pourrait mener à la mort. D'après le gouvernement espagnol, le procès du journaliste marocain est un processus judiciaire normal qui s'est déroulé dans un pays libre. Il s'agit d'une question interne au Maroc et le moindre commentaire en provenance de la péninsule pourrait charger de nuages un ciel jusqu'alors dégagé entre les deux voisins. Le cas d'Ali Mrabet et de ses amis journalistes est donc jugé négligeable puisqu'il ne suppose aucun profit diplomatique ou économique, bien au contraire. Plus grave encore, les proportions dans lesquelles le droit d'asile se trouve bafoué en Espagne. Parce que, toujours du point de vue des dirigeants, défendre les droits d'un réfugié, c'est se lancer à corps perdu dans l'improductivité avec la garantie de l'absence de retombées de toutes sortes, sauf évidemment pour tout ce qui concerne les problèmes assimilés à l'immigration par le gouvernement et la droite en particulier. Après les nombreux obstacles imposés récemment à l'entrée sur le territoire espagnol, le nombre de demandes d'asile a chuté de 35% en un an seulement et 95% des demandes présentées sont refusées, ce qui fait de l'Espagne l'un des pays du monde qui possède le plus bas indice d'accueil. Il n'y a que 0,2 réfugiés pour 1000 habitants, alors que certains pays européens atteignent le chiffre de 17 pour 1000. Ces données ont été présentées par les ONG à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Les conclusions ont été vite tirées. Arbitraire du procédé d'asile, manque de solidarité vis-à-vis des ressortissants de pays en conflit et mesures de restriction drastiques vis-à-vis des demandeurs colombiens et cubains. La cruauté atteint son comble lorsqu'on analyse le cas des réfugiés irakiens, dont les demandes étaient automatiquement rejetées, alors que sur un autre terrain, on utilisait leur détresse pour justifier la guerre et l'occupation. Un comportement obscène qui avait pourtant été largement dénoncé par l'opposition et la société au moment du conflit. Le déguisement humanitaire de l'Espagne est en train de s'effilocher. Maintenant, le pays aurait besoin d'un comité d'éthique spécialisé et armé d'une grande patience pour expliquer à ses décideurs, sans entrer dans les subtilités de l'impératif catégorique de Kant, que les droits fondamentaux ne sont tout simplement pas aptes à la relativisation. À Madrid, Emmanuel Stales pour Carrefour du Monde.
Après la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, le Canada pourrait devenir le quatrième pays au monde à reconnaître les mariages gays. Le Premier ministre Jean Chrétien entend déposer un projet de loi sur le sujet très prochainement. Pendant ce temps, Éric Larouche, le pays doit s'ajuster aux turbulences de l'économie mondiale.
Le Premier ministre Jean Chrétien n'a pas l'intention de contester la décision d'une cour ontarienne autorisant le mariage entre conjoints de même sexe. Il y a quelques jours, la Cour d'appel de l'Ontario a légalisé les unions homosexuelles, tout comme l'avaient fait avant les tribunaux de Colombie-Britannique et du Québec. Jean Chrétien a l'intention de demander à la Cour suprême de se pencher sur un projet de loi sur le mariage de couples de même sexe. Puis les députés seront appelés à prendre position sur cette question litigieuse lors d'un vote libre. Par ailleurs, le ministre des Finances, John Manley, fera une mise à jour cette semaine sur l'état des finances publiques pour tenir compte d'un ralentissement imprévu de l'économie. L'économie canadienne a durement été frappée par la crise de la pneumonie atypique et par celle de la vache folle dans les provinces de l'Ouest. Ces deux facteurs, auxquels s'ajoute la crise de l'industrie des pêches dans les maritimes, ont entraîné des dépenses imprévues. Le ministre des Finances soutient que les estimations de croissance économique pour 2003 ont probablement chuté d'environ 1%. Lors du dépôt de son premier budget, John Manley avait prévu une croissance de l'économie canadienne de 3,2%. Il a toutefois voulu rassurer la population en précisant que le gouvernement fédéral pouvait compter sur une réserve de 4 milliards de dollars, une somme qui est selon lui suffisante pour absorber les nouvelles dépenses. De plus, une vague de compression d'emplois affecte le pays. Dans les derniers jours, l'Imperial Tobacco a aboli 840 emplois en Ontario et au Québec. Selon la compagnie, la diminution des ventes de cigarettes entraîne une surcapacité de production qui rend la réorganisation nécessaire. Et la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique annonce la compression de 520 emplois supplémentaires d'ici 2005. Ces mises à pied s'ajoutent aux 300 autres déjà annoncées cette année. Elles s'inscrivent dans un plan de restructuration de 252 millions de dollars. Elles toucheront tous les secteurs de la compagnie. Bonne nouvelle toutefois sur le plus grand transporteur aérien du pays, 7000 employés d'Air Canada, affiliés au syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile, ont ratifié la nouvelle convention collective. Cette entente a été négociée dans le cadre de la restructuration de la compagnie. Elle prévoit de lourdes concessions de la part des syndiqués, de l'ordre de 150 millions de dollars par année. 800 emplois seront perdus. Air Canada lutte actuellement pour sa survie. La compagnie a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 200 millions de dollars canadiens en mai par rapport à l'année dernière. Elle prévoit la même chose pour juin. Pour éviter la faillite, la compagnie doit réduire ses coûts de plus de 2 milliards par année. Ici Éric Larouche à Edmonton pour Carrefour du Monde.
Tout commence par un cul et finit par un bec. Tant de joie, tu pourrais faire que je colle. Tant de joie, tu pourrais, croyais-tu,
Ce texte que vous écoutez a été mis en musique par Robert Charlebois et fut écrit par Pierre Bourgault. Homme politique, écrivain, journaliste, orateur, professeur et comédien accompli, Pierre Bourgault est mort le 16 juin dernier à l'Hôtel Dieu de Montréal, portrait d'un indépendantiste québécois convaincu par Hélène Mercier.
Libre. De tous les mots utilisés pour décrire Pierre Bourgault depuis sa mort, libre est celui qui revient le plus fréquemment. Liberté d'esprit et de parole, un penseur libre, un homme libre. Libre il a vécu, libre il est mort, a-t-on pu lire entre autres et entendre dans les médias québécois. Comme si tous ceux qui l'ont connu ne trouvaient une définition juste qu'en ce terme, libre. À l'âge de 69 ans, Bourgault est mort d'une maladie pulmonaire chronique obstructive. Il n'a jamais cessé de fumer malgré les nombreux pontages. Il s'en foutait. Souvent à bout de souffle, lors de ses chroniques à l'émission Indicatif présent sur la première chaîne de Radio-Canada, il ne fut jamais à bout d'idées. Né à East Angus, petit village de l'Estrie, il fut ensuite sur les bancs du Collège Brébeuf à Montréal. Puis la politique arriva dans sa vie, ou plutôt il arriva dans la vie politique québécoise. Il fut un des membres fondateurs du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le premier mouvement pour l'indépendance du Québec. De 1960 à 1968, le RIN se tailla une place de choix sur l'échiquier politique et pour la deuxième moitié de son existence, il eut Pierre Bourgault comme président. En 1968, le RIN est dissous et Bourgault ainsi que la plupart des membres vont rejoindre le Parti québécois de René Lévesque. Un parti qu'il quittera de façon définitive en 1980, après de nombreuses prises de bec avec René Lévesque. Il a d'ailleurs, une dizaine d'années plus tard, écrit l'essai « Moi, je m'en souviens », une réplique à la biographie de l'ex-premier ministre « Attendez que je me rappelle ». Dès 1973, il se consacre aux communications et devient chroniqueur dans de nombreux magazines québécois et canadiens. En 1976, c'est à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, que Pierre Bourgault commence à enseigner aux futurs journalistes québécois. Un verbe qui charmait, qui arrivait à convaincre. Une maîtrise renversante de la langue française dont il a d'ailleurs défendu le bien-parler toute sa vie. La maîtrise d'une langue, c'est l'accès à la liberté, a-t-il dit plus d'une fois. Plus de 3500 discours rarement écrits d'avance, toujours aussi enflammés. On m'a raconté un jour qu'une bande de fédéralistes convaincus avait décidé d'assister à une de ses prises de parole publiques dans le but de chahuter et d'empêcher le bon déroulement des choses. Les trois jeunes hommes sont repartis, cartes du RIN dans leur portefeuille, convaincus dur comme fer que l'indépendance du Québec était la seule solution. Dès l'annonce de sa mort, tout mon entourage se rappelait d'une parole, d'un extrait de texte, d'un bout d'entrevue, et l'inquiétude pouvait se lire sur leur visage. Maintenant, il nous reste qui, demandait-il? La demi-mesure, il ne l'a jamais côtoyée et les abus, il s'en est permis de toutes sortes. Ses amis le décrivaient comme un bon vivant, extrêmement dur et exigeant en amitié, car il demandait à tous l'intelligence que lui avait. Marie-France Bazot, l'animatrice d'Indicatif présent, racontait le nombre de fois où Pierre l'a appelée pour lui mentionner à quel point l'entrevue qu'elle avait menée le matin même était pourrie, avec un P majuscule. Bourgo laisse dans le deuil un Québec qui l'a marqué au fer rouge. Lui qui disait avoir une capacité innée à tourner la page, à repartir à neuf, à oublier, mettra probablement une éternité à faire oublier. Une éternité et plus encore. Hélène Mercier pour Carrefour du Monde à Yellowknife.
Ceci clôture les revues d'actualité. Merci à tous nos correspondants. Dans un instant, nous allons nous intéresser au phénomène des jardins communautaires, comment profiter d'un jardin quand on vit en ville.
J'ai une rangée de laitue, commence à sortir. Ça, ce sont des piments. Ça, ce sont des choux, choux rouges, choux verts. Alors ici, c'est des betteraves. Là, ce sont des oignons rouges. Et là, ce sont des haricots français. Voilà.
Véritable poumon urbain, les jardins communautaires sont de plus en plus en vogue. D'abord considérés comme une activité de loisir, la pratique du jardinage en ville fait de nombreux adeptes, surtout auprès des retraités. À Montréal, environ 7000 personnes louent chaque année un petit lopin de terre de 9 à 12 mètres carrés à la municipalité pour y cultiver leurs propres fleurs, fruits et légumes, et chacun y trouve son compte. Mais l'engouement a ses limites, les quelques 75 jardins communautaires de Montréal ne suffisent plus et beaucoup attendent longtemps l'attribution d'un jardinet. Entre les blocs de béton et les bruits de pots d'échappement, Clarisse Sérignat s'est rendue dans un jardin communautaire de Montréal. Elle vous rapporte le pouls de cet espace vert.
C'est
Mon nom est Pierrette Vézina Elfstrom. Moi, je suis la présidente du jardin, ce qui comprend de tenir les règlements, parce que nous avons des règlements à suivre, louer les petits jardinets quand on en a de libre, et puis faire à peu près tout. Ici, c'est un lot privé qui appartient à l'Hôpital général juif de Montréal. Et les premiers qui ont parti le jardin avec l'aide de la ville, parce que la ville est venue, et ils ont fait tous les arrangements pour les diviser, division de chaque jardin. Ils nous ont clôturé et ils nous fournissent l'eau, ils nous fournissent le gravier, la terre, quand on en demande. Ils sont très généreux, la ville de Montréal.
Donc, vous pouvez m'expliquer, en fait, qu'est-ce qu'un jardin communautaire?
Un jardin communautaire, ce sont tous des petits jardinets de tant de dimensions. Et ça, c'est pour la population. En principe, ici, ce sont pour des gens à la retraite. Ça a commencé comme ça. Mais comme il y a eu beaucoup de disparus, lorsqu'on a des jardinets qui nous restent de libre, eh bien, on les loue à des plus jeunes. Ce sont tous des travailleurs ici. C'est pas Westmount, là. C'est pas la haute société, là. C'est un mélange, là. C'est la Société des Nations, ici. C'est unique parce que j'ai au moins 18 différentes nationalités dans le jardin.
Et qu'est-ce que les gens cultivent dans ces terrains-là?
La plupart cultivent les légumes de leur pays. C'est pour ça qu'il y a tant de variétés. Les Philippines cultivent leurs choses, les Bangladesh leurs choses, la Chine leurs choses. Et nous, on s'en tient, nous les Canadiens, hein, on s'en tient à nos carottes, nos tomates, nos oignons, et ainsi de suite. Il était venu un médecin de l'Université McGill et qui parle souvent de toutes les plantes là, qui sont médicinales. Il m'a dit que j'en avais 22 dans le jardin. Je ne connais pas. Non.
Les récoltes sont importantes?
Ah oui, très bien.
Ça vous sert aussi à faire des économies?
Pas rien que des économies, c'est que les légumes ont du goût. Ils goûtent quelque chose. Quand on sort nos carottes, ils goûtent les carottes.
Vous faites attention, il y a une vigilance quand même par rapport à l'utilisation des pesticides. Il y a un souci de l'environnement?
C'est défendu. Ici, c'est défendu les pesticides dans le jardin. Et ils le savent. Oui, oui, c'est dans les règles.
Donc, en même temps, le jardin communautaire, ça sert aussi à sensibiliser les gens à l'environnement?
Oh, sûrement. Dommage qu'on soit dans une grande ville parce que on a toutes les automobiles qui passent et ça, on ne peut rien y faire. Hein? Mais c'est sérieux. Oui.
Il faut être sévère?
Très. C'est-à-dire pour toutes les règles du jardin. Les allées doivent être nettoyées, l'herbe doit être coupée, les ordures doivent être mises dans des sacs, sortir. Malgré qu'on crie à tous les ans, puis ça ne change rien. Mais ça s'améliore.
Est-ce que vous craignez un jour que, justement, ce
on
terrain...
On va le perdre.
Oui.
Ah oui. Quand ils construiront, vous voyez le bloc appartement qui est là, là. Mais ça, c'était tout des jardins, là. On allait à trois blocs.
Et là, vous avez aucune défense pour garder le terrain?
Ah non. C'est privé. C'est un terrain privé. Mais aucune défense. Et il n'y a plus d'endroit dans la Côte des Neiges là, pour faire des jardins communautaires. Il n'y en a plus. Parce qu'on a des parcs, mais jamais ils vont aller faire un jardin communautaire dans un parc. Ils ne vont pas couper les arbres. Non.
C'était un reportage de Clarisse Sérignat à Montréal. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver la version photo du reportage sur les jardins communautaires sur le site carrefourdumonde.org. C'est sur cette note verte que Carrefour du Monde s'achève. Merci à tous nos correspondants, Emmanuel Stels à Madrid, Hélène Mercier à Yellowknife, Éric Larouche à Montréal et le grand Nicolas Perronnet à Grenoble. Merci également à Clarisse Sérignat, à la réalisation et à la coordination à Montréal. Bonne nouvelle, Carrefour du Monde se poursuit cet été. Toute l'équipe vous a concocté des émissions spéciales estivales. Rendez-vous donc le mardi à 13h30 sur Radio Campus Bruxelles 107.2 FM ainsi que sur Radio Panique 105.4 FM, le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ Mons 99.9 FM et le dimanche à 9h sur CISM Montréal 89.3 FM. Et puis, il y a également le site internet de Carrefour du Monde, carrefourdumonde.org. Ici Nicolas Willems à Bruxelles, à la prochaine, ciao.